On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux ou les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurices de Radio Canu, Radio Rebelle, sur le 102.2 ou sur radiocanu.org. Il est 21h passé de 2 minutes et vous êtes à l'écoute de l'émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Ce soir, on va discuter, on va parler de la construction sociale, des difficultés scolaires. On pourrait dire aussi de la construction la production des inégalités sociales devant la réussite scolaire. Et pour ce faire, on va rediffuser une conférence de Stéphane Bonnery, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation ou professeur en sciences de l'éducation, je ne sais plus exactement, bref, on s'en fout, à Paris 8. Donc c'est une conférence qui date de 2009, donc qui date d'il y a plus de 5 ans maintenant, qui a été faite à l'UFM de Poitou-Charentes. Et elle est un petit peu longue, donc on ne diffusera ce soir qu'une première partie. Donc cette émission, ça prendra deux émissions, on va dire. La deuxième partie sera diffusée soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. Et donc c'est une conférence qui effectivement réfléchit sur la construction sociale de ce qu'on appelle en général les difficultés scolaires ou l'échec scolaire, et qui a donc de manière sous-jacente, on va dire, le projet de démocratisation scolaire qui est défendu hein, dans cette conférence de manière implicite, on pourrait dire. Je voulais revenir justement pour parce que la question de la démocratisation scolaire, ça peut aussi questionner des fois chez certains révolutionnaires, libertaires, etc. Mais je le ferai plutôt la semaine prochaine, essayer d'expliquer aussi en quoi c'est pertinent dans une perspective révolutionnaire, progressiste, libertaire, de continuer de défendre une véritable démocratisation scolaire, une véritable égalité selon la classe sociale, le sexe, les origines ethniques, etc., à l'école. Pour le dire juste très vite, c'est que on sait que l'école est un lieu central de la production des inégalités sociales, des hiérarchies sociales et de leur légitimation, puisque les inégalités sont en général légitimées par des compétences. Il y en a qui sont plus compétents pour certaines tâches, etc. Et qu'en définitive, ces compétences sont certifiées par des diplômes de l'école. Donc c'est un lieu central de la production des hiérarchies et de leur reproduction aussi, parce que ce qu'on se constate, c'est que les enfants des classes supérieurs réussissent toujours mieux face aux épreuves scolaires que les enfants des classes dominées, défavorisées. Et donc continuer de se battre pour une démocratisation scolaire, c'est aussi non pas faire advenir une sorte de monde de façon parfaitement irréaliste où à la fois pourrait coexister une parfaite égalité des chances à l'école et une parfaite inégalité économique et sociale par ailleurs. C'est quelque chose de parfaitement irréaliste, c'est justement mettre en crise le système, mettre en crise l'ordre social, parce que à partir du moment où les enfants des classes supérieures seront de plus en plus contestés par les enfants des classes populaires pour obtenir ces certifications, on peut supposer que effectivement ça aboutira à une situation de crise et de remise en cause même des inégalités sociales, économiques, de revenus, etc. Voilà, donc ça c'était pour le dire très vite. Je lance tout de suite donc la conférence de Stéphane Bonnery, professeur à Paris 8 de sciences de l'éducation, et qui nous parle de la construction sociale des difficultés scolaires.
Just listen and learn.
Donc bonjour à tous, donc, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 Saint-Denis. Je travaille dans l'équipe ESCOL dans une continuité avec les travaux des membres fondateurs de l'équipe et de collègues qui l'ont rejoint depuis, entre autres Bernard Charlot, Elisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, Patrick Rayou, Christine Bouissou, Jacques Crinon. Donc une partie de ce que je vais vous dire leur est évidemment redevable, ainsi que à d'autres chercheurs en sociologie de l'éducation que je vais essayer de mentionner au fur et à mesure, mais j'aurai probablement pas le loisir de le faire pour tous. Peut-être me faut-il expliquer au départ ce qui m'a mené à étudier la façon dont se construit la difficulté scolaire dans l'école. C'est que il y avait un état des lieux de la recherche en sociologie de l'éducation qui tendanciellement, je vais évidemment mordre le trait et pousser les choses, mais procéder, pardon, c'est pas très esthétique, procéder d'une répartition du travail où en gros on avait d'un côté des recherches de type quantitatif qui montraient fort bien en quoi les élèves qui connaissent des difficultés scolaires ne se recrutent pas au hasard socialement et notamment qui montrent fort bien en quoi l'école réalise des fonctions sociales que l'on pourrait nommer de différentes façons, mais que pour reprendre en tout cas les termes de Bourdieu, on pourrait nommer une fonction de reproduction de la hiérarchie sociale et une fonction de légitimation des inégalités, ce que avec d'autres catégories bon, de l'eau établie pourrait appeler une fonction d'inculcation de la place dans la hiérarchie sociale. Donc des démonstrations à grande échelle de mécanismes qui doivent être pris en compte parce que c'est aussi à partir de ces grandes tendances qu'il me semble qu'il faut raisonner. Et en même temps, d'autres travaux qui se sont développés depuis les années 80, et là aussi je vais mordre le trait sur la façon de les caractériser, pour simplifier, mais des travaux qui s'intéressent par exemple aux interactions dans la classe, mais avec une majorité de ces travaux qui s'intéressent aux interactions qui ont lieu dans la salle de classe, mais finalement un peu comme si cette salle était une salle parmi d'autres, comme si ça se produisait, comme si on analysait des interactions dans un centre de loisirs, dans un lieu de socialisation parmi d'autres, et la spécificité de la transmission scolaire et des savoirs qui sont transmis par l'école étant relativement occultée, ou alors d'autres travaux locaux sur les contenus scolaires cette fois, mais qui travaillaient par exemple en sociologie du curriculum, pouvaient prendre en compte la façon dont les savoirs sont mis en forme, transmis, y compris qui peuvent être mis en forme et transmis de telle sorte qu'ils profitent inégalement aux élèves, mais en allant peu voir les dispositifs pédagogiques pratiques dans lesquels ces mécanismes de sélection sociale par la transmission inégale se réalisaient. Donc, c'est à partir de ces différents emprunts et d'autres que je vais un peu passer sous silence pour aller plus vite, mais que je me suis dit que ça valait le coup d'aller regarder de plus près la façon dont les élèves se confrontent à l'école, l'interprétation qu'ils en font, mais pas une interprétation au sens interactionniste du terme, mais plutôt l'interprétation qu'ils font de ce à quoi l'école les confronte, ça fait un peu jargonneux tout ça, mais de ce à quoi l'école les confronte en termes de contenu de savoir, de dispositifs pédagogiques entendus, dispositifs pédagogiques, je vais beaucoup l'utiliser, j'entends par là des façons d'enseigner récurrentes qui dépassent les façons de faire individuelles de monsieur ou madame untel dans sa classe. Quand j'ai commencé cette recherche qui a eu lieu entre 2000 et 2003, le discours à l'époque était de stigmatiser un des degrés du système scolaire, en l'occurrence le collège, qui était taxé d'être le maillon faible du système. Et c'était une porte d'entrée dans le débat social pour s'attaquer à la démocratisation scolaire. Et pour tout vous dire, j'ai plutôt tendance à être militant de la démocratisation scolaire. Et donc je m'étais dit que ça valait le coup d'essayer de regarder si les problèmes qui explosent au collège étaient les problèmes du collège, étaient les problèmes où se révèle l'impossibilité de la démocratisation scolaire, ou au contraire, ce qui était la petite idée que j'avais derrière la tête, mais qui méritait de le construire en objet de recherche, est-ce que c'était les problèmes, les limites de la démocratisation scolaire, mais qui ne sont pas une fatalité, et qui, si on arrive à montrer les mécanismes par lesquels se produisent les difficultés scolaires qui, à grande échelle, peuvent être des inégalités sociales de réussite scolaire, l'explication de ces mécanismes peut donner à penser sur le fait que peut-être ils ne sont pas inexorables, mais là, ça, de mon point de vue, ça ne regarde plus tout à fait le chercheur, mais en tout cas, cette contribution-là m'intéressait. Mais dernier, je vais prendre quelques précautions parce que comme quand même le débat sur l'école est particulièrement miné, il y a des choses se trappent un peu partout, pour pas avoir utilisé donner des éléments qui pourraient être utilisés à des fins qui ne sont pas les miennes, je prends quelques précautions en deux minutes de plus. Mais le temps de la recherche, c'est notre luxe, mais pas celui de l'action. On n'a pas les mains dans le cambouis, en même temps que, pour ce qui me concerne, les enseignants et les élèves qu'on observe. Et le temps de faire une recherche, de la rédiger sous forme universitaire, puis de la publier sous forme d'ouvrage, ça prend du temps. Et en l'occurrence, ce bouquin s'est paru sous forme de bouquin en septembre 2007, c'est-à-dire pile poil une semaine après la publication du rapport du Haut Conseil à l'évaluation de l'école, qui, tel qu'il a été diffusé dans la presse, je vais plutôt parler de la vulgarisation qui en a été faite que du rapport, sinon ça nous amènerait loin, la diffusion qui en a été faite du rapport disait la chose suivante, je vais évidemment caricaturer, mais disait que le problème n'était plus le collège, mais l'école élémentaire, puisque les élèves arrivaient avec un degré, un niveau scolaire effroyable à l'entrée en sixième. Ce qui mériterait discussion, avec des éléments objectifs qui font que les élèves arrivent, je ne vais pas être hypocrite, avec, pour une part d'entre eux, avec un niveau qui ne leur permet objectivement pas de suivre en sixième, mais l'utilisation sociale qui a été faite de ces données-là pose problème et mériterait discussion. Donc d'une certaine manière, les conclusions auxquelles j'en arrive peuvent rejoindre en partie ce constat, mais ne s'inscrivent pas dans la même visée. C'est-à-dire, pour donner une anecdote enseignante plus personnelle, je suis dans un département des sciences de l'éducation, dans lequel nous avons eu une réunion, il y a un petit moment de ça, il y a un an de ça, je crois, lors de laquelle les professeurs d'université, c'est-à-dire ceux qui encadrent les étudiants jusqu'au niveau des thèses et qui sont très vigilants à ce qui se passe au niveau master, puisque c'est le vivier dans lequel on recrute les thésards, bousculent l'ordre du... Ces professeurs d'université de mon département bousculent l'ordre du jour d'une réunion en disant... il faut qu'on change l'ordre du jour, il faut commencer par un point crucial, il y a un problème à l'entrée en master, le niveau est effroyable, qu'est-ce qui se passe en licence ? Bon. Et avec un certain nombre de maîtres de conférences, nous réagissons immédiatement en disant, mais très chers collègues, tant que nous avons un décret commun du statut de 64, je ne vais pas revenir sur ce qui nous a agité cette année, nous enseignons tous autant que nous sommes pour un quart de notre service en licence, donc la question n'est pas qu'est-ce qui se passe là-bas en licence qui nous fout le bazar en master, la question est qu'est-ce qu'on fait tous autant que nous sommes en licence pour préparer objectivement les étudiants à entrer en master, et je ne veux pas faire démago, on a un réel problème sur le niveau d'entrée en master. Voilà. Donc, et là, d'autres collègues enchaînent, je vous promets que je n'en suis pas, en disant, mais de toute façon, il ne faut pas se raconter d'histoire, quand ils sortent du bac, c'est plus ce que c'était, on fait avec ce qu'on a, et donc ça pose objectivement, vous m'avez vu venir, mais je le fais quand même pour le plaisir, ça pose objectivement le problème du lycée, et de la façon dont le lycée prépare les étudiants à entrer à l'université, parce qu'il y a quand même un vrai problème qui mérite d'être pris avec précaution, mais il y a quand même un élément à regarder de plus près. Mais j'ai fait précédemment des recherches sur le décrochage scolaire, on a des éléments quand même qui montrent qu'à l'entrée en seconde, il y a une part inquiétante d'élèves qui décrochent des wagons et qui ne vont pas au terme de l'année de seconde, et qui posent objectivement la question de la façon dont le collège les a préparés à ce qui les attend au lycée. Évidemment, c'est en cela que je rejoins en partie les constats que montrent les évaluations nationales, mais avec des conclusions qui ne sont pas les mêmes, en se disant, ben oui, à l'entrée en sixième, il y a de réelles questions qui sont posées à l'école élémentaire, mais vous savez, comme moi, que dès l'entrée en CP, les enseignants se grattent la tête sur comment ils vont faire avec des élèves qui arrivent de la maternelle avec un niveau d'acquisition qui ne les met pas tous sur le même pied d'égalité. Je ne vais pas faire trop de parenthèses comme celles que je vais faire. Je crains que le problème ne soit résolu par le vide dans pas longtemps au niveau de la maternelle. Mais enfin, bon, c'est une autre question. Mais très sérieusement, des collègues qui enquêtent en maternelle m'ont confirmé que des observations que j'ai pu faire sporadiquement sont confirmées. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare... Vous savez, on fait des réunions parents-enseignants au bout d'une semaine ou deux pour rencontrer les parents en début d'année. Il n'est pas rare d'entendre, et je ne veux pas qu'on rie des enseignants, hein, ce n'est pas du tout ma soupe, il n'est pas rare d'entendre des enseignants dire en moyenne section à une classe de parents, j'ai un niveau très hétérogène, je vais voir comment je vais pouvoir faire. Et voilà, donc de la maternelle à l'université, là j'en viens au cœur du sujet, il me semble que ça pose une question sur la façon dont le système scolaire perçoit ses élèves et perçoit sa mission. Qu'est-ce que c'est qu'une école qui est systématiquement surprise de ce que les élèves qu'elle accueille à l'entrée dans chaque cycle ne sont pas spontanément dans la connivence avec ce qu'on va enseigner. Voilà. Donc ça, et du coup, moi je me suis intéressé au passage entre l'école élémentaire et le collège comme un révélateur de difficultés qui se posent à l'école, mais qui ne sont pas les difficultés de l'école élémentaire à Roux sur le Baudet, ou les difficultés du collège. Je les ai pris comme un moment particulièrement révélateur, puisque c'est encore la scolarité unique, donc c'est décisif pour la suite de toute une classe d'âge du pays, mais avec l'hypothèse que ce qui s'y révèle peut à la fois nous enseigner des choses sur ces deux degrés et sur le passage entre ces deux degrés, mais beaucoup plus généralement sur les difficultés de la démocratisation scolaire sur l'ensemble du système aujourd'hui. La première partie de mon propos portera sur une question qui n'est pas parmi celles qui sont les plus fréquemment étudiées en sociologie de l'éducation, qui est celle, finalement, des difficultés d'apprentissage. Alors, il y a évidemment des travaux fondateurs en la matière. J'ai parlé des collègues de mon équipe, mais évidemment, il y a ceux de Lahire, de Viviane Isambert-Jamati, enfin, bon, et de beaucoup d'autres. Dont je m'inspire évidemment beaucoup, mais finalement, en poids, en kilos, en page d'écriture, le volume consacré aux difficultés intellectuelles et d'apprentissage est finalement assez minoritaire en sociologie de l'éducation. Pour des raisons de répartition du travail, certainement avec les didacticiens, etc., bon, sur lesquels on pourrait revenir, mais... quand même, une de mes recherches précédentes portait sur les élèves de classe relais, et je faisais le constat suivant, c'est que les élèves qui sont affectés en classe relais, c'est-à-dire dans un dispositif officiellement de rescolarisation en fin de collège, je fais les mêmes constats que Sylvain Brocolicchi sur les élèves qui sortent précocement du système scolaire sans qualification. C'est-à-dire que ces élèves fragilisés, qui en quelque sorte contreviennent à la loi de 89 sur la nécessité de faire obtenir un diplôme à tout le monde, ces élèves, quand on reconstruit leur parcours scolaire, sont en général signalés sur des questions de comportement ou d'absence. C'est là-dessus que l'institution les repère le plus fortement. Mais quand on recule chronologiquement dans leur dossier, on se rend compte que, premièrement, c'est au niveau collège que ça a explosé. Là-dessus, les témoignages des enseignants et des élèves s'accordent. Mais si on remonte encore le temps, là où les témoignages ne s'accordent plus exactement, c'est sur l'élémentaire, où en gros... Les élèves tiennent le discours du paradis perdu. Qu'est-ce que c'était bien l'école primaire. Au collège, je n'ai eu affaire qu'à des enseignants connards, racistes, bon, enfin, bon, bref, ce genre de choses. Mais à l'école élémentaire, ils étaient tous sympas. Et donc, on a quand même des catégories dichotomiques, les méchants et les gentils, quoi, hein. C'est ça qui fonctionne comme un miroir. Et chez les enseignants, c'est pas exactement la même chose, mais il y a de l'écho. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord au collège, ça s'est très mal passé. Hein. Là-dessus, il y a unanimité, les enseignants sont d'accord. Et au niveau élémentaire, les dossiers des enseignants disent que ça s'est quand même passé de façon acceptable, la relation pédagogique était maintenue, sauf que là, on apprend quelque chose de décisif dans leur dossier, c'était que ces élèves se comportaient à peu près de façon acceptable, mais ils n'apprenaient pas les savoirs qui étaient enseignés, les savoirs du programme. Ce qui pose une énigme que j'ai essayé de résoudre, c'est premièrement, comment il est possible d'être bien dans ses pompes en tant qu'élève à l'école élémentaire quand on n'apprend pas ce qui est enseigné et de ne pas vraiment s'en rendre compte. Et deux, pourquoi à incompréhension équivalente, si ça se vérifie, qu'il y a incompréhension équivalente, pourquoi ça explose au collège. Et qu'est-ce que ça nous révèle de ce qui se construit dans la durée de la difficulté scolaire. Je vous donne la conclusion avant de commencer. C'est finalement un souci personnel, mais finalement d'arriver à montrer que les élèves qui finissent par être désignés dans le collège comme des élèves insupportables, des élèves en grande difficulté, je vais revenir ensuite là-dessus, des élèves en grande difficulté, dès le plus jeune âge, n'étaient pas comme tels. Ils avaient des difficultés d'apprentissage, mais ce n'étaient pas des sauvageons. Ils avaient des difficultés d'apprentissage, mais est-ce que ces difficultés d'apprentissage étaient radicalement différentes d'autres élèves qui ont réussi à se raccrocher aux branches et à suivre une scolarité normale ? C'est un peu ce que j'ai essayé de regarder dans la durée. Et du coup, finalement, de montrer qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec, que les élèves en difficulté par nature dès le départ, ça n'existe pas. Il y a des difficultés scolaires qui ne sont pas surmontées, qui s'accumulent et qui se cristallisent pour poser de gros problèmes à la sortie, mais il n'y a pas de fatalité, même si, socialement, il n'y a pas de hasard social non plus. Les élèves sur qui ça tombe ne se recrutent pas tout à fait au hasard socialement, sauf que tous les élèves de milieu populaire ne connaissent pas les mêmes destinées, donc il n'y a pas de fatalité. Et comment on arrive à articuler dans l'analyse ni fatalité, ni hasard social ? C'est pour ça que, au vu des recherches précédentes sur ces élèves de classe relais et d'autres, si on part de l'idée, tiens, beaucoup d'élèves qui sont, j'ai un peu une catégorie n'importe pièce, mais normaux au sens où ils n'ont pas été signalés par les dispositifs d'identification des élèves souffrant de déficience intellectuelle, ils ne relèvent pas de l'enseignement spécialisé au sens de SECPAR et compagnie. Hein. Ils peuvent être suivis par des RASED, mais ça c'est... Bon, on en parlera après. Mais ce sont des élèves intelligents, il n'y a pas d'obstacle biologique à leur compréhension. C'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc si ces élèves-là connaissent chronologiquement, d'après les études qu'on connaît, d'abord des difficultés d'apprentissage qui se transforment en difficultés plus globales dans leur rapport à l'école, comment ça se construit, comment c'est possible, et donc, contrairement à la proportion des recherches en éducation, j'ai fait le choix de m'intéresser finalement à une sociologie des inégalités d'apprentissage dans la classe, dans les dispositifs pédagogiques, parce que il me semble que si on veut montrer que ça n'est pas joué d'avance, alors il faut regarder concrètement les mécanismes par lesquels les difficultés se construisent, ne se résolvent pas, et ainsi regarder de plus près. Donc la première partie à laquelle je vais consacrer le plus de temps va porter sur les difficultés d'apprentissage, comment se construisent-elles et quels sont des mécanismes des inégalités sociales de réussite scolaire. J'aborderai une deuxième partie sur d'autres difficultés d'un registre qu'on pourrait qualifier de identitaire, comportemental. On verra ça dans un second temps. En gros, c'est comment de l'incompréhension se traduit en problèmes relationnels, comportementaux, d'élèves qui se braquent contre l'école, etc. Autrement dit, comment de la difficulté sur des objets d'apprentissage précis se traduit en désignation d'élèves en grande difficulté. Et une troisième partie qui ne porte plus sur cette recherche et où j'aborderai deux aspects. Le premier, en quoi ce type de recherche m'amène, qui est terminé, c'est la dernière fois que j'en parle aujourd'hui, dans une conférence, m'amène à de nouvelles recherches, notamment sur les supports culturels à destination de l'enfance. Je vais travailler notamment sur les albums, les livres pour enfants et leur usage dans le cadre scolaire et non scolaire, et en quoi le type d'approche que je vais faire là m'amène à regarder avec le même œil de ce qui est prérequis, implicite, pour utiliser des termes de Bourdieu, dans les manuels aujourd'hui. Est-ce que ça pose comme question sociologique, mais aussi pédagogique, à leur usage dans les structures éducatives? Et puis, le dernier bout, on va se le garder, le caractère plus pédagogique, mais du coup, qui ne sera pas tout à fait investi de l'autorité de la science, sur une fois qu'on sait tout ça, et qu'est-ce qu'on peut en faire dans les classes, pour se le garder sous le coude quand même. Mais je changerai de casquette à ce moment-là.
toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort, émission de critique sociale et de sciences sociales critiques, avec donc la radiodiffusion, une conférence de Stéphane Bonnery, professeur de sciences de l'éducation à Paris 8, conférence qui date de 2009. Donc on se fait une petite pause musicale avant de poursuivre avec donc une nouvelle partie de cette conférence que, donc, je répète, on n'écoutera pas tout ce soir parce qu'elle est trop longue, donc on diffusera le reste plus tard. Mais en attendant, donc, petite pause musicale avec Urban Blight et le titre Social Order. Radio Canu. N'apercevront que leur image, le plus parfait des parfaits camouflages, le trompe-l'œil et puis... Toujours écoute d'Angle Mort, on vient donc de s'écouter Urban Blight avec Social Order, et on poursuit avec toujours la conférence de Stéphane Bonnery, professeur de sciences d'éducation à Paris 8, qui nous parle de la construction sociale, des difficultés scolaires, notamment à travers donc les dispositifs pédagogiques, et donc la contribution de ces dispositifs pédagogiques à la fabrique d'inégalités sociales devant la réussite scolaire.
Donc première partie, même si ça paraît trivial, je voudrais commencer par un exemple. J'ai enquêté sur le suivi entre le CM2 et la 6e pour regarder ce qui se dévoile, c'est une formule de Jean-Yves Rochex, dans le passage d'un cycle à l'autre, d'un degré à l'autre, avec la volonté de regarder comment se construit l'échec scolaire, donc en allant à la pêche, au sens vraiment de la pêche, dans des territoires où j'avais une chance d'observer malheureusement de la fabrication d'échecs scolaires, et d'avoir une chance d'observer des choses qui m'intéressaient. Donc j'ai enquêté dans un quartier très populaire d'une des académies franciliennes. C'est un quartier très très populaire, avec une extrême précarité, mais contrairement à ce qu'on raconte à TF1, c'est pas le Bronx. Il y a un tissu social, associatif, voilà. Bon. Les enfants vivent dans des conditions de précarité extrême, parce qu'en plus c'est un quartier où il y a beaucoup de néo-arrivants, donc le temps qu'ils s'installent, qu'ils aient un appart HLM, etc. Donc bon, les conditions d'habitat sont compliquées. Néanmoins, les élèves viennent le matin, à peu près à l'heure. Hein. Donc toute la rhétorique du handicap socioculturel, selon laquelle c'est parce que, pour reprendre une expression encore de Jean-Yves Rochex, on serait enfant de pauvre, on serait condamné à être de pauvres élèves. Les élèves arrivent à peu près frais et dispos, ils ne sont pas tombants de sommeil. Et dans ce que j'ai pu recueillir des conditions de vie familiale et de ce qu'en disent les élèves, ils disent qu'ils entendent trois choses le matin et une chose le soir, qui me semble être de bon sens dans une famille populaire et qui suffit pour que l'école travaille, je crois. Enfin, ça c'est plus le, c'est peut-être le chercheur qui parle, mais on en reparlera après. Ils entendent trois choses le matin: tais-toi, écoute, fais ce qu'on te dit de faire. Et le soir, ils entendent une chose, une quatrième chose: est-ce que ça s'est bien passé? À partir de là, on peut légitimement penser qu'il y a un souci familial de ce que la scolarité fonctionne à peu près, mais pour les élèves que j'ai suivis, avec des familles qui n'ont aucune espèce de maîtrise de la façon dont l'école fonctionne, et à part se fier à ce que les élèves disent de la façon dont ça s'est passé et au retour qu'ils ont à l'école, ils n'ont aucun autre outil que cela. Voilà. Donc, dans un quartier populaire, mais où il n'y a aucune raison de penser que ce qui se joue dans le quartier empêche l'école de fonctionner. Et deuxièmement, j'enquêtais dans des établissements qui, en collège, sont parmi les établissements qui ont les plus faibles scores aux évaluations nationales en 6e et au brevet en 3e. Et j'ai enquêté dans les écoles élémentaires qui fournissent à ces collèges les élèves les plus fragiles au vu des scores au collège, mais aussi au vu des évaluations nationales CE2. Donc je suis allé à la pêche, méthodologiquement, à la difficulté scolaire, dans des établissements et dans des classes de collègues dans lesquels on enseigne. Il n'y a pas d'élèves qui grimpent au rideau, c'est un cadre scolaire. Hein. Là aussi, on est loin de la caricature. Il y a des Et moi, ma question, c'est comment des enseignants qui se donnent du mal avec des élèves qui sont de bonne volonté et avec des familles qui, comme je viens de le dire, remplissent le minimum de bonne volonté scolaire, comment tous ces gens de bonne volonté, malgré eux, sont mis dans des conditions, quels sont les mécanismes qui agissent à travers eux, au travers des dispositifs pédagogiques qui vont être mis en place, pour que tout ce petit monde de bonne volonté se voit à l'arrivée produire des processus de fabrication de difficultés scolaires. Je dis ça parce que si c'est pour aller vérifier que ça existe, c'est minoritaire, mais ça existe, qu'un collègue de mauvaise volonté produit de l'échec, ça, voilà, c'est pas la peine de payer un chercheur, la télé et parfois l'institution suffise. Enfin, ça, pardon, je suis filmé, je devrais pas le dire. Et y compris, je vois pas l'intérêt. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est à regarder comment une part de déterminisme, mais pas au sens mécanique, se joue dans des classes, dans les outils qui sont mis à disposition des enseignants. Et donc, dernière précaution que je prends, je court-circuite complètement la variable enseignant, puisque ce qui m'intéresse, ce sont des façons de faire récurrentes que j'observe dans de multiples classes, avec différents collègues, et chez les mêmes collègues, à de multiples reprises, dans des situations différentes sur différentes disciplines. Donc je ne m'intéresse pas à la spécificité de chaque discipline, ce serait encore une autre recherche. Mais donc quand je parle de dispositifs pédagogiques, c'est de ça dont je parle. Parce que si on arrive à montrer que les dispositifs pédagogiques qui sont mis en œuvre participent à la fabrication de difficultés, il n'y a pas à se culpabiliser individuellement en tant qu'enseignant, il n'y a pas à s'en laver les mains non plus. Ça pose la question des outils qui sont à disposition des enseignants, ce qui peut engager des réflexions pédagogiques, didactiques, on garde ça pour la conclusion, mais qui en tout cas en tant que chercheur, et en tout cas sur la maîtrise des effets sociaux de ce que la vulgarisation de la recherche produit, n'encourage absolument pas des lectures culpabilisantes chez les enseignants, chez les élèves ou chez les familles. Ça pose des questions, des missions de l'école et des dispositifs qui sont mis en œuvre. Et donc, on rentre dans l'exemple. Ça se passe en sixième. Je pourrais prendre des exemples de CM2, il n'y a pas de jaloux. La conclusion, c'est que l'incompréhension est à peu près équivalente en CM2 comme en sixième. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Donc, ou aussi bons les uns que les autres. Mais évidemment, je focalise mon regard sur ceux qui participent à la difficulté. Donc, il y a aussi des situations où les élèves apprennent. Mais ce qui m'intéresse, c'est où c'est que se pose le problème, non pas par sadisme, mais parce que si on arrive à comprendre où se situe le problème, peut-être que pédagogiquement, on pourra réfléchir. Donc ça se passe dans une classe de 6e, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, en cours de géographie, pardon monsieur le doyen, et donc l'enseignante vise deux savoirs qui sont au programme de 6e. Elle est dans les clous sur le plan des objectifs assignés à sa séance. Je veux dire, elle n'est pas coupable. Donc, elle veut à la fois enseigner la notion de relief et la cartographie. Et pour ce faire, elle va distribuer un fond de carte qui n'est pas colorié. Il s'avère que c'est la carte de la France. La façon dont elle va procéder, on peut dire de façon un peu simpliste que c'est une sorte de cours dialogué dans lequel elle va mettre les élèves au travail sur des tâches de coloriage en essayant de faire en sorte que cette tâche de coloriage de, bon, je vais le dire de façon hyper simpliste, mais les montagnes marron de plus en plus foncées au fur et à mesure que le palier d'altitude est élevé, voilà, que cette tâche de coloriage engage les élèves sur un apprentissage de ce que c'est que le relief et de ce que c'est que le codage en fonction d'un symbole, en l'occurrence, là, le relief. Et en l'occurrence, là, un code chromatique. Et elle va engager ainsi les élèves dans un cours dialogué, articulé à une tâche de coloriage, dans laquelle, par exemple, elle va dire « Alors, je cite de mémoire, alors là, regardez bien, cet endroit, vous voyez, il y a une zone où il y a écrit plus de 1000. On va la colorier avec le marron le plus foncé dont vous disposez dans votre trousse de crayon de couleur. Cette zone-là, avec ce marron-là, regardez bien, exactement de la même couleur que le petit rectangle qu'il y a là dans ce qu'on appelle la légende. Et elle explique que pourquoi c'est la légende, pourquoi ça symbolise un palier d'altitude qui, patati, patata. Donc le patati, patata, je le dis parce que pendant qu'elle se lance dans une longue explication où elle va essayer à de multiples reprises pendant 2 heures que dure la séance, un, de montrer avec un geste la correspondance entre le cas appliqué et le code décontextualisé qui se trouve dans le coin en bas à droite, la légende. Donc elle montre la corrélation, elle montre la relation, le transfert, je sais pas. Et elle va également produire de multiples énoncés oraux en essayant d'attirer l'attention des élèves vers une formule qui essaie de donner à voir le code, c'est-à-dire qu'elle va répéter à de multiples reprises « Chaque fois qu'il y aura écrit plus de 1000, on va le colorier avec cette couleur-là parce que ça symbolise un palier d'altitude qui ?» Et donc, je tiens à préciser que moi, dans l'instant I de la séance, je suis comme l'enseignant, j'ai pas les mains dans le cambouis, mais je ne vois pas plus ce qui se passe qu'elle. Ça n'est que après coup, en comparant des données, en re-observant, en repassant le film à de multiples reprises, à l'enregistrement, en réécoutant, et voilà, que je me rends compte un peu de ce qui s'est produit. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'élève dont je vais parler là, il a compris que on lui montrait un crayon et qu'on lui désignait une tâche à réaliser là, maintenant, tout de suite, ici et maintenant, en fait, physiquement, il se penche sur la tâche, il ferme les écoutilles, il colorie, et pendant ce temps, la maîtresse, elle cause. Et elle cause sur l'essentiel, parce que là, elle a enclenché sur le « parce que ». Ça symbolise un palier d'altitude qui, patati et patata. Or, quand il a fini de colorier les deux zones, il relève la tête, il regarde où elle en est, elle s'excite à monter un autre truc, là, hop, elle fait ça, C'est sur quoi? C'est du vert, ok, c'est parti. Et ainsi de suite, il lève régulièrement la tête, il regarde les copains à côté, ils en sont où? Vert clair, marron, c'est quoi? La zone en haut, en bas. Quand ils sont secs, tous les copains autour, qui ne voient pas trop ce qu'ils peuvent faire, ils harcèlent la maîtresse de questions en tirailleurs, les uns derrière les autres. Madame, là, c'est du vert clair. Mais oui, je l'ai dit 50 fois, parce que... Ça symbolise un palier d'altitude qui... Bon, etc. C'est-à-dire que... Et ainsi de suite, ils arrivent au bout de 2 heures de séance à avoir le produit conforme de la tâche conforme, écrit, bien colorié, et ils repartent de la séance avec tout juste. Le problème, c'est... Enfin, il y a une série de problèmes, mais en tout cas, le fait qu'ils aient juste... sans avoir recours au savoir, produit un effet de leurre sur le moment, parce que le soir, ils vont à l'accompagnement scolaire où je les suis, ils sont bien gentils, je les suis partout, donc ils vont à l'accompagnement scolaire avec le pauvre animateur BAFA, qui, comme les élèves, voit écrit dans le cahier de texte, pour la fois d'après, contrôle, ils ne sont pas pris par un traître, par surprise, contrôle, réviser la carte, réviser le relief. Bon. Et ils n'ont sous les yeux, pour réviser, qu'une trace écrite du résultat. Il n'y a pas écrit les 50 ou 60 fois, je ne sais plus combien de fois il l'a répété, chaque fois qu'il y aura écrit plus de 1000, ça veut dire que tatati tatata. C'est-à-dire qu'ils ont un produit fini à réviser, et l'élève, dont je vais finir par dire le prénom dans une minute, je me garde sous le coude, l'élève en question va être devant une activité de révision qui n'évoque pas grand-chose pour lui, réviser, si ce n'est apprendre par cœur, c'est-à-dire qu'il est là devant une activité d'apprentissage, donc par cœur, de quoi? D'une page coloriée. Donc il va finalement procéder en visualisant des zones de façon un peu mnémotechnique, en prenant des repères. En gros, il a repéré qu'il y avait une patate, comme il dit, marron foncé au milieu, c'est le cœur du massif central, puis par cercle concentrique, c'est de moins en moins foncé, puis à partir de là, ça tourne, il y a un trait bleu, je ne sais plus si c'est la Loire, enfin, un peu, je suis nul, bon. À partir de là, c'est vert, et bon, il a pris des repères, et il colorie. Et il revient le coup d'après, il sait à peu près colorier tout bien par cœur, sauf que je ne le fais pas long, parce que vous avez tous compris, forcément, le contrôle, le devoir sur table, porte sur un autre fond de carte. Parce que pour vérifier que les élèves ont transféré, décontextualisé, recontextualisé la notion, patati et patata, ben, par définition, on ne peut pas redonner la même tâche, parce que sinon, on court le risque justement que les élèves récitent par cœur, et on ne vérifie pas qu'ils arrivent à transférer. Donc cet élève, je fais une parenthèse, il s'appelle Amidou. Voilà, on l'a dit une fois, c'est dit. Il pourrait s'appeler, comme d'autres élèves que j'ai suivis, Shemseddine, Loana, Jérémy ou Vikash. Ça n'y changerait rien. C'est-à-dire que ce qui est en question, ce n'est pas la consonance malienne du prénom, hein, parce que parfois j'ai des collègues qui me disent « Oui, mais tu comprends, dans mon établissement, j'ai 27 ou 28 nationalités. » Et donc, avec des collègues, et notamment des collègues bon, bref, qui tournent sur les établissements parce qu'ils sont syndiqués, on a fait le point. Et l'établissement de région parisienne, et donc probablement de France, qui compte le plus de nationalités, c'est Louis le Grand, qui en a près d'une cinquantaine tous les ans. Et de toute évidence, les enfants d'ambassadeurs n'ont pas de problème d'incompréhension du même registre qu'Amidou. Donc ce qui est en jeu, ce n'est pas l'inéluctabilité de l'incompréhension en fonction de l'origine de tel ou tel pays, c'est bien celle de classe sociale, mais non pas au sens d'une fatalité. C'est celle d'enfants qui viennent de familles qui n'ont que l'école pour apprendre l'école. Et donc si en quelque sorte l'école ne prend pas entièrement à sa charge la transmission de ce qui est censé être appris, ben, il n'y a pas de raison qu'il l'invente. Voilà, pour le dire un peu trivialement. Donc évidemment, dans notre pays, les classes populaires sont en moyenne beaucoup plus composées d'enfants originaires loin ou récemment d'autres pays que les autres classes, mais il me semble que ce qui est en jeu, c'est absolument pas une fatalité, mais c'est bien une question de connivence plus ou moins grande, et donc de comment l'école fonctionne. Donc il s'appelle Amidou, parenthèse refermée. Donc Amidou fait partie de ses élèves, qui va être les plus révoltés par ce qui se passe, et qui, évidemment, spontanément, face à la situation, va se lever, il va hurler, c'est dégueulasse, c'est pas ce qu'on a appris, et vous nous faites bûcher une carte et c'en est une autre que vous nous foutez à l'interro, bon, voilà, bon, les noms d'oiseaux fusent. Et là, l'enseignante est prise dans une situation, évidemment, qui convient de prendre avec des pincettes, parce qu'il y a un observateur universitaire dans la classe depuis un mois, enfin, vous imaginez, bon, bref, vous imaginez la situation agréable, pour tout le monde d'ailleurs. elle dit aux élèves la chose suivante: écoutez, donc je sème ça, on le ramassera après, hein. Écoutez, si vous avez bien écouté en classe et que vous avez bien bûché à la maison, parce qu'il ne faut pas me la faire, hein, à ces conditions-là, réfléchissez un peu, calmez-vous, et vous verrez que c'est la même tâche qu'on a fait l'autre jour en classe, hein. Donc il n'y a pas de raison de vous affoler, vous allez y arriver. Et là, la bande tourne, et j'entends en off à côté Amidou qui dit: mais non, pour des cons, c'est pas la même tâche, c'est pas le même cas. Bon. Et objectivement, tous les deux ont raison. Donc, il n'y a pas un coupable dans l'affaire. J'espère que ça, c'est clair. Il n'y a pas de coupable dans l'affaire. Donc, l'enseignante a raison, dans le sens où elle s'est donné un mal de chien à attirer l'attention des élèves, tant par les gestes que par les formules qu'elle énonce à l'oral, sur, en gros, le codage. Et l'élève a raison de son côté, ça n'est pas la même tâche, puisqu'il a passé une énergie considérable à contourner les indications du code et à savoir comment colorier chacune des zones de la carte. Donc, en fait, là où il y a incompréhension, c'est que pour Amidou et ses copains, hein, on va dire que c'est un cas générique, hein, évidemment, si c'était un exemple tiré du chapeau, je ne serais pas là en train de vous en parler. Hein, ce qui est important, c'est la récurrence de ces observations et en quoi cet exemple-là illustre de multiples observations enregistrées, analysées, etc., etc. Donc, il me semble que, partons de l'élève, pour remonter ensuite vers le dispositif pédagogique et vers l'école. Chez l'élève, ce qui se passe, c'est que il est focalisé sur des attitudes de conformité au résultat, à la tâche. Il faut avoir tout juste. Et il pense que son boulot, c'est d'obéir, en gros. Il faut être conforme. Et ce qu'il entend le matin à la maison, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tais-toi, écoute et fais ce qu'on te dit de faire. Autrement dit, Amidou fait ça. Le problème, c'est que dans l'école aujourd'hui, si on fait ça, en général, on a perdu. C'est-à-dire que quelque chose d'autre est prérequis, pour reprendre une formule devenue classique, qui pose la question de la façon dont les dispositifs pédagogiques permettent le passage d'une attitude de conformité à une attitude de conformité articulée avec de l'appropriation. Je ne veux pas laisser penser qu'on pourrait avoir une attitude d'appropriation des savoirs sans être un minimum conforme aux tâches. Si on aligne mal les chiffres pour faire une addition dès le CP, on ne tombe pas sur le résultat. Donc il faut une part de conformité est nécessaire. Le problème, c'est quand l'horizon de l'activité des élèves se limite à cette dimension-là. Et donc, ce qui est attendu des élèves, c'est qu'ils articulent conformité et appropriation. La difficulté qui est posée, me semble-t-il, dans les dispositifs pédagogiques, c'est ce dans quoi on engage les élèves. C'est que les élèves se confrontent à l'école, mais à quoi les confronte-t-on? Or, les dispositifs pédagogiques que nous observons, je dis nous parce qu'il y a des recherches collectives depuis dans un réseau qui s'appelle Reseida qui confirme les mêmes choses avec des raffinements supplémentaires, c'est que, très souvent, les élèves sont mis au travail sur des tâches visibles, mais on se contente de les mettre en présence d'activités intellectuelles invisibles qu'on sollicite sans créer les conditions que tous les élèves soient engagés dans ces activités grâce aux tâches auxquelles on les confronte. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, bon, merci de hocher de la tête, c'est gentil. Autrement dit, il y a une activité de coloriage, de manipulation, d'expérimentation en sciences. Je pourrais démultiplier les exemples, des activités dans lesquelles on les engage, qui ne cadrent pas assez le travail, l'activité intellectuelle de l'élève sur le rapport entre la tâche et le savoir, qui ne cadrent pas assez l'activité intellectuelle des élèves sur ce qu'il y a à apprendre, donc un cadrage trop flou, et qui en général, dans un second temps, quand ça part un peu dans tous les sens, recadre l'activité des élèves, mais pour le coup de façon hyper étroite, sur des micro-tâches particulières, quasiment de coloriage pour le coup. Hein? Et bien sûr, ça ne se joue pas que du côté du dispositif pédagogique, puisque les élèves sont d'autant plus demandeurs d'un cadrage morcelé des tâches, pour reprendre une expression de didacticienne des maths, Butlène, Pézard et Pelletier, d'un morcellement des savoirs en micro-tâches, parcellaires. Les élèves sont d'autant plus demandeurs qu'ils croient que l'école, c'est obéir au maître. Et que une des questions qui se posent, c'est comment on permet aux élèves de comprendre qu'il faut changer d'attitude vis-à-vis des apprentissages, qu'il n'y a pas à se lamenter de leur façon de faire spontanée, et qu'il faut qu'ils réorientent leur activité intellectuelle. Et pour le coup, ça pose la question des dispositifs qui sont mis en place.
C'était la première partie de une conférence de Stéphane Bonnery, professeur de sciences de l'éducation à Paris 8, une conférence qui date de 2009 et qui a été faite à l'UFM de Poitou-Charentes, qui porte sur la construction sociale des difficultés scolaires. Et comme je l'annonçais en début d'émission et puis je l'ai redit au milieu, la deuxième partie, on la diffusera soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines. On pourra annoncer ça par le voie de notre blog, hein. Je rappelle notre blog de l'émission Angle Mort sur le site de Radio Canu. Il faut aller dans l'onglet blog des émissions et cliquer Angle Mort et vous accédez à notre blog. Vous pourrez aussi du coup réécouter si vous avez lâché à certains moments ce qu'on a écouté ce soir. Et puis je vous laisse avec donc Gedachu, Mekuria et ZX pour terminer cette émission, et après ça sera les copains et copines de la causerie. Voilà, bonne soirée à tout le monde, à bientôt.
Thank you.